Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Ça a été ensoleillé une petite partie de la journée, puis on a dépassé les maximums qu'on avait prévus aujourd'hui. On nous parlait de 8 degrés comme maximum, et tout à l'heure, je regardais, ça faisait autour de 10, 11, 12. Plus de lumière, plus de soleil, on s'en va vers le printemps. On lâche pas. Donc, vous avez passé une belle journée. On va certainement passer une belle soirée ensemble. Puisque ce soir, je réalise quelque chose avec l'invité qui est avec nous. On peut encore avoir de l'air jeune à 70 ans. J'étais persuadé qu'il y avait 55, 56, 57 ans. Et non, j'ai été voir sa date de naissance. Il est un petit peu plus vieux que ça. J'ai le plaisir d'accueillir Christian Dufour, qui vient nous présenter son livre « Plus que jamais la liberté ». Juriste, politicologue, chercheur, ex-professeur à l'École nationale d'administration publique, ex-fonctionnaire, auteur et chroniqueur. Il y a beaucoup trop de choses pour le présenter. Christian, salut.
Salut, mais je suis marginal aussi. Toutes ces choses-là, là, ça donne jusqu'à un certain point une image qui n'est pas exacte. Bon, j'ai été dans bien des milieux, j'ai réussi à me connecter à bien des places, mais je suis vraiment un loner, un marginal.
Moi. Ouais. Ben, moi, c'est ce que j'aime de toi, c'est ce que j'aime de ton style, c'est que t'attends pas de voir de quel bord va souffler le vent avant de donner ton opinion. C'est ton opinion que j'entends. Tu sais, t'as évolué dans un marché. Bon, oui, t'as habité pendant quelques années à Québec. On en parlera tantôt. Mais t'évolues dans un marché où il y a beaucoup d'idées qui sont très à gauche ou d'autres idées qui sont à gauche. Mais des gars comme toi qui sont pas mal souvent dans le centre, c'est-à-dire dans le gros bon sens, c'est rare qu'on entend ça dans les médias. Puis toi, t'as une belle carrière dans le gros bon sens.
Ben merci, c'est un beau compliment que tu me fais. Mais moi, je crois, le livre, j'aime beaucoup le titre « Le plus que jamais la liberté », je trouve que ça sonne un coup de canon, là. Puis j'y crois, moi, quand même, à la liberté. Mais les autres paramètres, c'est quand même la mesure, la modération, l'équilibre. C'est pas la liberté n'importe comment. Je suis pas un libertarien, j'ai aucun mépris pour les libertariens, puis je suis content qu'ils existent, mm-hmm. je tiens à le dire. Mais moi, je suis pas un libertarien parce que eux, ils vont plus loin. Donc, puis le bon sens aussi, puis ça, je trouve que c'est québécois. Le bon sens. On a des défauts, je critique le Québec là-dedans, là, entre autres durant la pandémie, mais c'est pas une société qui est fanatique, qui est très radicale, une espèce de modération en fait, ouais. Une vieille modération.
Les idées d'écrire ce livre-là te sont venues de quelle façon?
Ben moi, j'écrivais dans la presse à toutes les deux semaines une chronique que je travaillais énormément. Je mettais beaucoup d'énergie. Pour moi, je me suis trouvé que je mettais quasiment trop d'énergie dans des articles de journaux là, qui sont oubliés par définition. Puis quand la chronique s'est terminée, je me disais, ouais, il faudrait peut-être que je publie les meilleurs. Mais j'ai toujours pensé qu'un livre de chronique, c'était ennuyant. Puis ça n'intéresserait pas grand monde. Fait que là, il fallait que je me convainque. Mais ce qui a ajouté beaucoup de saveur à mon projet dans ma tête, c'est le fait quand j'ai dit, ouais, mais j'étais chroniqueur aussi au Journal de Montréal 5 ans, ouais. 10 ans avant. Fait que de joindre les deux mondes, ennemi, entre guillemets, ça, j'étais content. Ça fait que quand Danny Doucette du Journal de Montréal m'a donné la permission, puis François Cardinal de la presse, là, j'ai dit un beau projet parce que moi, j'ai œuvré dans les deux mondes. Puis là, j'ai regroupé ça par thème. Il y a 6 thèmes, des thèmes d'actualité, puis j'ai écrit des textes inédits. Là-dessus, assez long. Donc, il y a deux livres là-dedans, en fait.
Oui.
Il y a les chroniques, bon que j'ai redécouvertes parce que, tu sais, quand j'étais dans mes nouveaux textes, là, j'avais quoi oublié les chroniques, genre les chroniques ne sont pas mauvaises. Mais là, je n'ai relu quelques-unes, puis je dis, ouais, dans le fond, ça tient là. Donc, je suis content du projet. C'est un projet qui est plein de vie, en fait.
Oui. C'est un livre qui est très, très, très intéressant. Là, j'ai été un peu abasourdi, là, parce que j'ai l'impression que c'est comme ton dernier livre. C'est comme si tu te disais, ben, tiens, je vais mettre toutes les chroniques que je trouve pertinentes, puis je vais laisser ça aux gens qui me suivaient. Puis après ça, ben, il n'y en aura plus. On dirait, je me suis dit, ben non, c'est impossible que Christian Dufour disparaisse des médias, qu'on ne le voit plus passer nulle part. J'espère que ce n'est pas ton dernier.
C'est gentil de me dire ça. Mais il y a du vrai dans ce que tu dis. C'est pas, je veux pas que ce soit mon dernier, je suis pas mort, puis bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme un livre un peu bilan testament jusqu'à un certain point. C'est ce dont je suis porteur, tu sais, les chroniques dans les deux journaux. Je suis très chanceux d'arriver avec ça maintenant. Mais la vie continue, puis comme je te disais un peu avant qu'on commence l'émission, là, sur le Québec, j'ai l'impression d'avoir dit pas mal ce que j'avais à dire depuis mon premier livre, Le défi québécois, 1989.
Ouais.
Ça fait quand même beaucoup de temps, puis j'ai été très présent. Donc, sur le Québec, mais il faut jamais dire jamais, je sais bien. Mais ce qui m'intéresse plus quand même ces temps-ci, c'est beaucoup l'actualité internationale, que je trouve très déprimante. Mais pour analyser, c'est fascinant.
Ben oui, analyser, c'est facile.
Ça change, tout change.
Oui. Puis pour ce qui est de tes chroniques, là, les lire plusieurs années plus tard, ça a-tu fait mal des fois à certains endroits en disant « Hey, je me suis trompé » ou « Oh boy, j'étais directement target sur la cible. »
Ben, je t'avoue que celle où je me suis trompé, je les ai pas mises.
OK, ben,
je suis pas
non, on mais, se ressemble un peu comme ça.
non, mais je suis assez fier de ces chroniques-là. Puis en les relisant, je trouve que je suis pas objectif, là, mais elles tiennent assez bien la route. C'est très différent à celles du Journal de Montréal ou du Journal de Québec, qui sont plus personnelles, sont plus courtes, tout ça. Celles de la presse étaient plus structurées. Mais une chose que j'avais oubliée, c'est sur la pandémie. C'est qu'après la pandémie, comme bien du monde, je voulais passer à autre chose. C'était déprimant, cette pandémie-là. Là, on était tellement content d'en sortir. Et puis dans la pandémie, j'ai été quelqu'un qui a été critique. Je suis quand même une de mes fiertés. Là. J'ai été capable de critiquer alors qu'il y avait un unanimisme exagéré. Mais en lisant les chroniques de la période de pandémie, ça me rappelait à quel point ça avait dérapé au Québec. J'avais comme oublié, en fait.
On oublie rapidement.
Hein? On oublie rapidement, tu as raison. Et je suis content de revenir avec ça. Non pas pour semer le trouble, mais ça a quand même révélé des choses sur le Québec. Ouais. Pour toutes les sociétés, d'ailleurs, ça a révélé quelque chose.
T'expliques ça comment qu'on a été aussi soumis par rapport au gouvernement qui réagissait d'une façon totalement différente des autres gouvernements partout dans le monde par rapport à cette pandémie-là? Y a-tu quelque chose en nous? Je sais pas, c'est-tu quand on s'est fait battre par les Anglais? Les Français, les officiers français sont partis, puis qu'on a été soumis au régime anglais pendant des années et des années. Y a-t-il une part de ce qu'on a vécu pendant la pandémie qui est encore dans notre ADN du temps où les Anglais nous dominaient?
Malheureusement, oui, je crois. Je crois qu'on est quand même un peu conquis. Et bon, évidemment, on est les conquis les plus confortables de la planète, là. Hein? C'est en même temps le paradis. C'est ça le paradoxe, c'est que le Québec, il y a une espèce d'angoisse, puis c'est vrai que le rapport avec l'anglais est complexe. En même temps, il y a un confort, une sécurité, c'est un petit paradis. Mais tu me le dis, c'est quelque chose de vrai. Parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que le Québec, c'est un des grands amours de ma vie, parce que j'ai pas eu d'enfant, puis les 7 livres que j'ai écrits portent en bonne partie sur le Québec. Mais l'amour est aveugle.
Ouais.
Et puis, il y a quelque chose que j'avais jamais vu dans le Québec. Puis que j'ai découverte durant la pandémie. Puis sur le coup, ça m'a vraiment déprimé. Hein. Parce que moi, je ne peux pas avoir d'autre patrie que le Québec. Là. Je suis parcellien, je suis un Québécois.
Ouais.
Mais j'ai trouvé que l'accent mis sur la sécurité durant la pandémie, ça me semblait excessif. Puis le fait qu'on a rabaissé la liberté, puis que des élites supposément de gauche là, regardaient de haut ceux qui parlaient de liberté, ça m'a troublé. Moi, je ne suis pas de même, en tout cas. Je trouvais que... Puis j'ai mes amis souverainistes qui n'aiment pas ça. Ben, avec cette mentalité-là, la souveraineté, vous repasserez. Là, parce
c'est
que
clair.
Je veux ouais. dire, tu ne peux pas avoir tout dans la vie. Tu peux pas avoir le confort. Puis, tu sais, je travaille ces temps-ci. J'aime les Québécois parce que j'ai assez vécu, assez voyagé pour savoir qu'il n'y a pas de peuple parfait, tu sais. Puis quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Puis c'est une société qui est vraiment... Il y a beaucoup de dignité, il y a beaucoup de gentillesse. Moi, ce qui me réconcilie toujours avec le Québec, je le dis, c'est quand j'arrive à Dorval, la gentillesse, en fait, des douaniers, ça arrive même issu de l'immigration, c'est même pas juste les francophones de ça. Mais... On est très dans le confort.
Ouais. On a une paix d'esprit.
Ouais, c'est ça. Puis durant la pandémie, c'était trop, je trouvais. C'était exagéré. Moi, je crois à la modération. On n'a pas ouais. été modéré durant la pandémie.
Exact. Il y avait une surenchère de la prudence. Qui allait être le plus prudent? Quand j'écoutais les chroniqueurs à la télé ou encore quand je lisais des chroniqueurs, c'était qui allait être le plus prudent? Puis même si on défiait des fois la science avec le fameux couvre-feu, on s'était rendu compte qu'il y avait rien qui disait dans la science que le couvre-feu allait enrayer la pandémie, ben on disait c'était une bonne idée. Je me souviens d'une artiste que je nommerai pas parce que c'est pas important de la nommer, mais elle était dans une émission qui était très écoutée, puis elle avait dit « Moi, j'aime ça que le premier ministre pense à ma place.
Ouais. »
Ça m'avait frappé, Christian. Je me suis dit « Mais ça n'a pas de bon sens. » Tu sais, moi, le premier ministre, il est en place, c'est un élu, il doit prendre de grandes décisions, mais enlève-moi pas ma liberté de penser, par exemple.
Ouais, c'est vrai. Puis durant la pandémie, cet aspect-là existait de façon un peu troublante. Moi, j'ai trouvé que durant la pandémie, a réémergé un vieux Québec canadien-français conservateur d'avant 1960. Bon, puis moi, puis ça m'étonne pas parce que moi, je crois beaucoup que les sociétés, sur leurs allures modernes, uniformisées, le passé est important pour toutes les sociétés. Mmh. Ça peut être la France, les États-Unis, tout ça. Le Québec n'a pas commencé en 1960. Avant, c'était pas juste des colons, là. Tu sais, c'était des gens là, pendant longtemps qui ont travaillé. J'en parle des fois à mon amie Francine Pelletier, que j'aime beaucoup, mais elle est à gauche en mort. On est à des années-lumière l'un de l'autre. Mais je dis, toi, tu es tombée amoureuse du Québec issu de la Révolution tranquille, féministe, progressiste. Mais le Québec, c'est plus grand que ça, c'est plus gros que ça. Donc, pour répondre à ta question, durant la pandémie, moi, je fais l'analogie entre les messes d'avant, là, c'était catholique jusqu'aux oreilles avant. J'ai largement souvenir. Toi, tu es beaucoup trop jeune pour souvenir de ça, mais je me souviens, moi, de l'époque où tout le monde allait à la messe le dimanche, tout ça, la finale. Bon. Puis que les conférences de presse de François Legault avec le docteur Arruda, ça ressemblait vraiment. Hein. Ouais. Puis là, il fallait que tu les écoutes. Hein. T'sais, moi, je les écoutais. Moi, j'avais un côté un peu délinquant. Moi là-dessus, je dois dire que je ne suis pas embarqué totalement là-dedans parce que je trouvais ça exagéré. Là.
Mais tu gardais ta liberté de penser. Tu te disais pas, hey, j'ai pas besoin de m'en occuper de la pandémie, le gouvernement est là, j'ai pas besoin de réfléchir. C'est atroce d'arriver avec une citation comme ça. C'était une personne qui était bien en vue de dire, ben moi, ça me rassure, moi, que le gouvernement prenne des décisions à ma place puis que j'ai pas à penser. Je trouvais ça atroce.
Il y a eu comme une abdication un peu. Ouais. Non, il y a une soumission, tu as raison. Et il y a une leçon qui peut être attirée de ça. Je sais que mon livre, dans le fond, je veux faire ressortir ça. Là. Puis les gens qui sont souverainistes, je dis pas que le Québec sera jamais indépendant. Puis moi, j'ai rien contre l'indépendance. Je viens du Saguenay puis de Chicoutimi. Puis quand j'étais jeune, je trouvais qu'on avait été conquis par les Anglais, puis c'était évident qu'il fallait être indépendant. Bon. Ouais. Mais à un moment donné, je suis sorti du Saguenay, puis je réalisais que tous les Québécois n'étaient pas de même. Donc, mais par contre, le côté victimaire, puis le côté un peu trop suiveux, il est là. Puis durant la pandémie, c'était pas beau. Moi, le mépris, là, moi ce que j'ai vraiment trouvé terrible, c'est que le mépris, les touristes statales, les Québécois qui ont osé aller dans le sud, là, à un moment donné, ça a dérapé pas à peu près.
Alors qu'on pouvait aller voyager dans le sud.
C'était même pas risqué, c'était pas vrai.
Je me souviens de François Legault, le système hospitalier est dans la misère, la santé, ça fonctionne pas bien. François Legault dit, ben moi, je n'accepterais pas de me faire vacciner par une infirmière qui n'est pas vaccinée.
Exactement. Non, mais c'est vrai, les exemples abondent. À un moment donné, si ça avait été juste le Québec, on aurait fermé les frontières. Il y avait un consensus, ça l'a fait. Puis ça, je t'avoue que ça m'a fait décrocher. Parce que moi, on ne m'empêche pas de sortir. Ouais. Parce qu'en vrai, je me disais, hey, là, c'est quoi cette gang-là? Ils ont tellement peur qu'ils ne veulent plus qu'on sorte. Il a été question, à un moment donné, d'imposer une taxe aux gens qui n'étaient pas vaccinés.
Ouais.
Il y a un tas d'exemples comme ça. Bon, cela dit, comment je pourrais t'expliquer?
Il y a même des chroniqueurs du Journal de Montréal qui ont proposé de réouvrir Gagnonville. Puis d'envoyer des gens qui n'étaient pas vaccinés à Gagnonville.
Là. Ah, tu me prends ça. Je le savais. Ou dénoncer aussi. Tu sais, il y avait eu les fêtes de Noël. Puis à un moment donné, il y a eu des chroniqueurs. Il y a eu la mairesse de Montréal aussi qui avait dit, bon, il faut dénoncer ceux qui... Donc, je trouve qu'il y a des choses qui sont sorties qui n'étaient pas belles. Pour une société qui est très... pour aussi les élites. Ils sont toujours en train de radoter sur les chartes des droits. Puis tu sais, d'habitude, les universitaires, ils n'ont pas dit un mot, hein. Ils se sont tués.
En fait, ils n'ont pas dit un mot parce qu'ils avaient peur de se faire castrer. S'ils disent un mot.
Parce qu'ils étaient conformistes. En fait, il y avait un grand, grand conformisme chez ces élites-là qui vont dans le sens du vent. Mais cela dit, je critique du Québec, c'est un peu ma job. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu regardes les sociétés en général, chaque société a ses défis, a ses problèmes. Quand tu regardes dans le monde actuellement, il n'y a pas, énormément. Donc, c'est notre défi à nous de se tenir plus debout aussi.
Est-ce que Christian Dufour pense que... c'est en voyageant, des fois, qu'on voit comment ça se passe à l'extérieur réellement. Puis à quel point, des fois, on peut s'apercevoir que chez nous, où on habite, il y a des gens qui prennent de drôles de décisions. Souvent, Puis c'est pas un jugement. En fait, oui, c'est une opinion, mais en même temps, c'est un jugement. Je me rends compte qu'il y a des gens qui sont très peu sortis du Québec, qui lisent uniquement une langue. Ils ne sont pas capables de voir ce qui se passe dans l'Ouest canadien. Ils ne sont pas capables de suivre ce qui se passe aux États-Unis, la politique américaine. Ils ne regardent pas ce qui se passe en Europe. Poutine, on sait que c'est un méchant. Ah, la Corée du Nord, on sait que c'est des méchants. Mais ils n'en savent pas plus. Est-ce que tu as l'impression que quand on voyage, on a une vision peut-être complètement différente de ce que les gens qui ne voyagent pas ou qui vont juste à Cuba une fois de temps en temps peuvent avoir?
Ben, ça relativise les choses. C'est ce que j'aime mon frère, dans le fond, que j'aime bien par ailleurs, mais qui ne voyage pas vraiment beaucoup. Puis j'ai dit, à un moment donné, sors un peu. Là. Je veux dire, c'est bien beau d'être victime, toujours te plaindre. Là. C'est comme un sport national québécois. Mais quand on se compare, les femmes aussi, mes amis, les femmes, j'écoutais la réalité. Le Québec, c'est un petit paradis pour les femmes. Là. Puis c'est un matriarcat. Il y a des problèmes. C'est clair qu'il y a des agressions encore. Je ne suis pas en train de nier qu'il y a des problèmes. Mais si on se compare avec les autres pays, moi, je connais beaucoup, beaucoup le Maroc, un pays que j'aime beaucoup, mais la condition féminine là-bas est à des années-lumière d'ici. Mais il y a un élément nouveau, par exemple, je trouve, c'est qu'avant, quand ça avait des problèmes ailleurs, c'était un entrefilet dans un journal ou c'était à la télévision, on en parlait au seul bulletin de fin de soirée. Avec la révolution numérique, la révolution de l'information, c'est que les problèmes d'ailleurs sont rendus nos problèmes. Puis ça, donc tu voyages sans vouloir voyager. Tu comprends? Je veux dire, t'es dans ton salon, là. L'affaire de Gaza, c'est éclatant, c'est ça. Puis là, t'es impuissant, tout ça. Donc, ce qui est pas tellement sain. Mais les Québécois, quelque part, je me répète, c'est s'il y a un côté enfant gâté quand même, tu sais, là, je veux dire, comment je pourrais t'expliquer ça?
Ben, c'est que moi, j'ai des amis qui sont dans des maisons d'environ 300 000, 350 000 à Québec. Ce n'est pas des grosses maisons, on ne peut pas comparer les prix avec Montréal, mais ces gens-là disent: Ah, non, nous autres, on est pauvres. Mais attends un peu, là. Tu ne sais pas c'est quoi l'extrême pauvreté quand tu ne l'as pas côtoyé au jour le jour.
T'as
Parce que
raison.
toi, dans ta maison, 350 000, tu n'es pas pauvre. C'est peut-être de la misère à arriver, mais tu n'es pas pauvre.
C'est que la vie est dure pour tout le monde, que tu
Oui.
sois riche ou pas. Puis c'est une forme de justice, là. Le bonheur, en fait, ça s'achète pas. Puis la santé, ça s'achète pas. Mais si on se compare, moi, quand je reviens du Maroc, qui est comme une deuxième patrie à un certain niveau, je suis toujours très rough les premiers jours. D'ailleurs, quand je faisais mes analyses là, dans les médias, je faisais attention. Parce que en arrivant, là, je me souviens, je prenais l'autobus 747 là, à Dorval, puis j'arrivais à la station de métro. Puis là, on dirait le Québec me pénétrait. Puis j'étais très dur, parce que je disais, mon Dieu, que c'est privilégié, puis le monde se plaint. Parce que je le dis dans le livre, hein, moi, les victimes, là, l'aspect victimaire, on fait toujours pitié, puis c'est rentable au Québec d'être victime. De se plaindre, c'est rentable. C'est une société, en fait, qui encourage ça. Ça, moi, je suis très différent de ça. Je trouve ça un peu. Puis la vie est assez dure d'elle-même, là, qu'il y a des vraies victimes, il y a des vrais problèmes. Moi, j'ai assez vécu pour savoir que, y a des drames. Mais là, à un moment donné, de jouer toujours aux plus victimes, là, ça marche pas. Moi, j'ai pas
Mais
de sympathie.
est-ce que les politiciens sont au courant de leur clientèle? Tu sais, un gars comme François Legault, quand il se présentait avec Horacio Arruda à 13 h, à tous les jours, savait très bien que les gens qui les écoutaient, c'était des gens qui étaient en vaste. Tu sais, majeurs, c'était des gens qui avaient 40, 50, 60, 70, 80. Tu sais, il savait, les politiciens, qu'ils étaient une présence rassurante à chaque jour. En même temps, ça leur donnait une visibilité qu'ils n'avaient jamais eue là, depuis que le Québec a été bâti, là.
Mais c'était très valorisant pour François Legault. C'était comme le père de la nation, mets-toi à sa place, là. Puis il sentait quand même un ralliement autour de lui, il sentait de l'amour jusqu'à un certain point. Et le problème, c'est que là, il paye actuellement, parce qu'il s'est beaucoup habitué à ça. Puis qui ne s'y serait pas habitué, hein, vraiment. Bon. Et moi, j'utilise toujours l'analogie amoureuse. Je me dis comme un gars là, qui tombe amoureux fou d'une fille, puis la fille, il l'aime à la folie. Là, c'est le bonheur, le bonheur. Puis là, à un moment donné, il arrive quelque chose, la fille, il l'aime plus. Fait que c'est un gros bad trip pour le gars. Hein. Fait que François Legault, il vit ça un peu, là. C'est que c'était exagéré, ce ralliement-là autour de lui. C'était un peu infantile, quelque part. Il y avait une espèce d'abdication. Il faut rester nuancé. C'est-à-dire, dans mes critiques du Québec, tu sais, le Québec, c'est quand même une société complexe, moderne. Je viens juste ici, le Bourgneuf, là, puis je suis impressionné par les édifices, le développement. C'est pas une société simple, c'est une société. C'est ce qui est intéressant. Mais moi, je trouve que, pour répondre durant la pandémie, il y a quelque chose qui est révélé qui est pas. Moi, j'aimerais que ça change, là, parce que c'est exagéré, là, puis c'est pas sain, c'est pas beau.
Ça a dû être dur aussi pour M. Arruda, t'sais, un gars qui travaillait toujours dans l'anonymat. Puis,
Exactement.
c'est un gars qui a toujours voulu être un artiste. C'est un artiste raté qui travaillait dans l'anonymat, qui était un homme extrêmement brillant. Puis pouf, du jour au lendemain, on y met les projecteurs sur lui. Puis c'est lui qui décide de tout ce qui se passe au Québec.
Exactement.
Il est devenu une rockstar, puis il s'est perdu un peu là-dedans aussi.
Et qui ne s'y serait pas perdu? Parce que le problème de la politique, moi j'ai quand même de la sympathie pour les politiciens, quels qu'ils soient, parce que moi, je suis un gérant d'estrade quand même. Tu sais, je commande, ça fait longtemps, mais tu sais, la politique, c'est rough, là. C'est la loi de la jungle, c'est l'encadrement de la loi de la jungle. C'est pas juste la politique, je les vois aller. Et puis, ceux qui vont là pour se faire aimer, je faisais un truc avec Nadine Normandeau hier, puis, qui a été ministre, évidemment. Puis, tu sais, Christian, en politique, on veut tous se faire aimer. Hein? Puis j'ai dit oui, mais John Major, l'ancien premier ministre britannique, avait dit, si vous voulez vous faire aimer, là, allez pas en politique, achetez-vous un chien. Hein? Puis je trouve que c'est très juste, parce que la politique, tu sais à quel point le monde, puis on peut se mettre à détester les politiciens. On les a jamais vus, ils nous ont rien fait personnellement. À un moment donné, on polarise Trudeau ces temps-ci. Hein? Il y a tellement de gens. Donc, dans ce sens-là, c'est rough. C'est l'encadrement de la loi de la jungle. C'est nécessaire. Donc, moi, j'ai une certaine indulgence, malgré tout, même si... c'est ça, j'ai l'indulgence, parce il y en a qui sont pas bons, puis qui durent, puis qui sont honorés.
Parce que Margaret Thatcher avait une haine. Il y a des gens qui la détestaient pour mourir, mais aujourd'hui, on reconnaît ce que Margaret Thatcher a fait pour l'Angleterre. T'sais, elle n'était pas parfaite, mais ce qu'elle a mis en place pour sauver son peuple, t'sais,
est impressionnant.
Ça doit être considéré, là.
T'as
elle savait qu'elle
raison.
n'allait pas être élue, là.
T'as raison, Mais en même temps, moi, une chose qui m'avait vraiment choqué, c'est quand elle est morte, il y a des gens qui ont encore craché sur elle. S'il y avait une telle haine à son égard, ouais. Là, le temps passé, ça s'est dissous. Mais il reste que ça m'avait frappé. Moi, j'avais de l'admiration pour elle. Mais tu regardes à quel point ça peut être injuste, c'est que les féministes disent « c'est pas une vraie femme ». C'était pas... Non, mais c'est vrai, ils la considéraient pas comme une femme, parce que c'était une femme traditionnelle, tu comprends? Ouais. Tu pas... Donc, elle représentait pas...
Mais c'était la dame de fer.
Ah oui, je sais. Moi, elle était trippante, en fait. Moi, ouais. Je trouve que... Puis elle faisait pas des choses pour plaire.
Exact.
Hein? Puis elle a...
C'est pas un peu ça qu'on s'attend des politiciens, de pas faire les choses pour plaire, mais faire les bonnes choses pour notre population?
T'as raison, mais c'est de plus en plus difficile. Parce que quand tu fais des choses qui ne plaisent pas, les effets vont... Prendre du temps à arriver. Puis à ce moment-là, tu seras peut-être plus là. Tu seras peut-être être mort. Puis souvent, les peuples sont très ingrats, n'ont pas de mémoire. Prends l'exemple britannique qui est quand même très parlant. Tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, Churchill, ils l'ont mis dehors. Ouais. Churchill, il venait de battre les nazis parce que là, il était tanné. Non, mais tu sais, il est revenu, remarque, après, là, un peu vieillissant, pas mal. Mais donc, les peuples sont ingrats. Les peuples n'ont pas de mémoire.
Hey, tu me rappelles, c'est vrai, ils venaient de battre les nazis puis
ils l'ont mis dehors. Puis ça, c'est pas rare. Donc, à ce moment-là, tu peux comprendre, il y en a qui... Mais c'est sûr que gouverner juste pour plaire, t'es dans le court terme, puis c'est l'histoire te rendra pas hommage. Mais les gens, souvent aujourd'hui, tu sais, les gens, c'est pas l'histoire qui les intéresse, c'est le présent, c'est le plaisir du présent.
Exact. Est-ce que, parce que là, on a parlé des femmes, tu as dit, bon, le féminisme, là, oui, il reste encore des combats à gagner au Québec, mais ailleurs dans le monde, le combat est encore... faut commencer le combat à certains endroits dans le monde. Est-ce que pour les personnes âgées, le Québec respecte ces personnes âgées?
Je dirais que c'est une société vieillissante. Moi quand je revenais à du Maroc durant la pandémie, je disais à mes amis, c'est comme une méga RPA. Là, je n'ai pas ça de revenir dans un... parce que les personnes âgées prenaient beaucoup de place. Je dirais oui puis non. Durant la pandémie, bon, on a vu l'espèce de dérapage dans le CHSLD. C'est un scandale absolu. En même temps, durant la pandémie, je trouve les vraies victimes, ça a été plus les jeunes que les vieux. Parce que, tu sais, les vieux, bon, on peut critiquer, mais quand t'es jeune, t'as besoin de sortir, t'as besoin d'interaction, t'as besoin de partir. Puis je trouve que moi, j'avais plus de sympathie pour les jeunes, moi, durant la pandémie. Ouais.
Est-ce qu'on leur fait attention aux vieux? Tu sais, je lisais ce matin dans le journal, tu sais, la personne n'a pas eu son deuxième bain dans la semaine parce qu'elle sentait bon. Alors que tout le monde mérite au moins deux bains par semaine. Je me dis, mais on est-tu vraiment rendu là? Parce qu'on voit une société, la façon dont elle traite ses aînés puis ses enfants, hein? Puis je trouve que pendant la pandémie, pour y revenir, on a mal traité nos enfants. T'sais, on ne s'est pas occupé de nos enfants. Puis encore une fois, on s'est aperçu qu'au niveau des statistiques, les jeunes garçons ont décroché encore plus pendant la pandémie. Puis les vieux, ben, on leur donne du manger que monsieur et madame tout le monde ne mangerait pas au quotidien, mais on considère que pour eux, ça va être bien correct parce qu'ils ne se plaignent pas. Je trouve ça d'une tristesse.
C'est une tristesse, c'est que collectivement, le Québec est quand même une social-démocratie très avancée. On dépense beaucoup dans le social. On a tout un vaste réseau public et parapublic en éducation et en santé. Moi, je trouve que le problème, c'est pas que nos investissements à l'égard des personnes âgées sont insuffisants, c'est l'organisation, la façon dont on fait ça. Pour Québec aussi, on a nettement plus tendance que dans les sociétés environnantes, surtout anglophones, à mettre nos personnes âgées dans des résidences, compréhension à l'égard de moi. Donc, le résultat peut être désastreux, mais moi, je vois pas qu'il y a une espèce d'abdication collective. C'est juste qu'on sait pas comment faire les choses. Puis aussi, l'autre point, c'est que c'est un problème un peu universel, hein, parce que là, avec l'augmentation de la longévité. C'est moi, quand j'étais jeune, quelqu'un de 100 ans, là, vraiment, il n'y en avait pas. Hein. Aujourd'hui, là, tu vois, tout le monde 100 ans, 90 ans, ça change tout.
Moi, j'ai connu mon grand-père alors qu'il avait 42, 43, 44 ans, puis il avait déjà l'air d'une personne âgée.
Ben oui, à l'époque, mon père me disait à un moment donné, oui, moi, j'ai 50 ans, je suis un vieux monsieur de 50 ans, moi, je suis un 74. Comprends-tu? C'est pas... C'est très... Puis moi, juste un exemple, moi, je tombe à Europe. J'avais un ami au Maroc qui avait 42 ans. Et puis, j'étais avec une amie à moi puis un autre ami qui avait mon âge. Donc, on était des vieux. Puis, il avait dit, j'avais trouvé ça candide. Dis-moi, il dit, je veux vieillir comme tes amis. Parce qu'ils sont vieux, mais ils continuent à vivre. Ils continuent à avoir du plaisir. Tout ça. Au Maroc, à 50 ans, c'est fini. Tu meurs pas. mais ta vie, si tu veux, comme active et finie.
Oh,
donc,
oui.
Tu vois à quel point ici au Québec, jusqu'à un certain point, être âgé au Québec, moi j'en suis, la première, je suis avec toi, là, vous êtes une bande de gens, c'est que quand t'es...
Mais je te le dis, Christian, je sais pas si tu te le fais dire souvent, mais j'étais persuadé que tu avais 55-56 ans quand j'ai vu que tu avais 74 ans.
Non, mais je prends le compliment.
Je sais pas qu'est-ce qu'il boit comme eau, là, mais ça doit...
Ah, non, j'ai une vie quand même, écoute, j'ai été 4 étés de fil en Californie, moi, en 76 et 80, à l'époque où tout était permis, là, donc...
Oui.
Je ne me suis pas privé. Mais juste pour dire, actuellement, les personnes âgées, ben, il y a beaucoup de cas là, d'abus, là, puis je comprends tout ça. Mais il reste que financièrement, ils sont quand même assez bien lotis globalement. Là. C'est quand même des baby boomers souvent qui ont les moyens. Puis en plus de ça, moi, autour de moi, un des phénomènes, c'est que les gens continuent à travailler. Moi, il y a un de mes grands amis qui sont des 18 ans. Et il donne des cours de français aux immigrants. Là, il l'appelle une fois de temps en temps. Écoute, là, il sort de 2 semaines de cours, 4 heures par jour, 5 jours par semaine.
Ouais.
Je te trouve bon. Hein?
Oui, puis c'est une richesse pour nous autres d'avoir un gars comme ça encore à cet âge-là qui fait ça tous les jours.
Exactement. Donc ça, c'est un avantage. Moi, c'est plus pour les jeunes que je m'en fais. Parce que moi, je vais être une génération où le Québec... c'est une parenthèse enchantée, moi, de la période où j'ai vécu. Parce qu'on a bénéficié du Québec d'avant. Tu sais, il y avait des valeurs... tu sais, c'était straight, là, mais il restait un Québec canadien, français, catholique. Moi, j'ai fait mon cours classique au séminaire de Chicoutimi. Ils nous ont légué beaucoup de choses. Ensuite, on a pu rejeter ça. Parce que, tu sais, nous autres, on tripait, puis c'est les années 60.
Ouais.
Donc, on a eu les deux mondes. Mais les jeunes d'aujourd'hui, des fois, je me demande ce qu'on leur a donné. Tu comprends-tu? Là, c'est ce que les générations leur ont donné. Puis je trouve qu'ils ont l'air... En tout cas, je remarque, je te dis être jeune, je suis être jeune. Là, puis tu me dirais, est-ce que tu veux être jeune? Je dirais oui, on va essayer une autre fois.
Mais c'est vrai, qu'est-ce que ça va être pour eux dans 30 ans, dans 40 ans? Moi, je suis un père de famille. Mon plus vieux, il a 10 ans. L'autre, il a 7 ans. Puis je me demande qu'est-ce qui va leur rester. Parce que, tu sais, on considère toutes que les années où on était ado, c'est les plus belles années. Ah. Tu sais, toi, tu étais ado dans les années 60, ça devait être les plus belles années pour toi. Moi, j'ai été ado dans les années 90, puis honnêtement, je ne remplacerais pas ces années-là avec les années d'aujourd'hui, tellement que j'avais du plaisir. Fait que j'espère juste que nos enfants auront du plaisir autant que nous, on en a eu, puis ils ne seront pas un peu constamment dans la tristesse, puis qu'ils vont pouvoir sortir une fois de temps en temps pour voir ce qui se passe ailleurs. Toi, tu as... t'es homosexuel.
Ouais.
T'as réussi à faire ta carrière malgré tout. J'imagine que, tu sais, sur 70 ans, il y a eu des étapes où Sacrifice, tu les as vues passer, puis tu te dis, on s'est amélioré de ce côté-là au Québec, là.
Ben oui, puis non. Oui, puis non. Parce que dans le livre, c'est vrai que quand j'étais très jeune, là, à un moment donné, des fois, tu peux te faire traiter de tapette, ce genre de choses-là.
Ouais. Est-ce que tu étais affirmé très jeune?
Ben moi, je me suis affirmé publiquement en 79.
OK.
Et une de mes fiertés, j'en parle dans le livre, c'est que j'ai été un des deux producteur et animateur de la première émission de radio gay en français dans le monde.
Ah oui?
Oui, puis on avait... Ça s'appelait L'Heure gay. Ça veut dire un an à Québec. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. L'heure on avait vérifié. C'était à CKRL. L'émission, la saison CKRL.
C'est tout ce que j'aime. C'est que tous les bonhommes qui écoutaient ça, qui disaient « Hey, L'Heure gay, c'est le fun, hein? C'est une heure joyeuse. »
Mais c'est vrai. Non, mais
aucune idée ce que c'était.
Non, mais tu ris, mais... Aujourd'hui, on a tendance souvent, toutes les générations font ça peut-être, tu sais, on a l'impression que l'histoire commence avec nous, hein, qu'avant c'était réactionnaire, tout ça. Puis les activistes guides aujourd'hui, des fois, ils veulent accréditer l'idée qu'avant c'était bien terrible. En tout cas, moi, je peux parler pour cette année-là, là, en 79-80, là, on avait eu pratiquement juste des réactions positives. C'était avant le sida, avant le mariage gay, c'était jovialiste.
Oui.
Tu sais, on faisait ça pour avoir du fun, pour faire de la radio.
Ben oui,
justement.
Ça me
faisait
jaser.
Puis c'était pas... Donc, c'est pas vrai qu'avant, là, il y avait de l'oppression. Michel Girouard, tu sais, celui qui est... J'ai une de mes chroniques, d'ailleurs, sur Michel Louvain, Michel Girouard, sur deux gays très, très différents, parce que Michel Girouard, il était très assumé, alors que Michel Louvain...
Il était pas pantoute.
Il était pas pantoute. Mais Michel Girouard, lui, a toujours dit qu'il n'avait jamais eu aucun problème. Parce que, tu sais, moi, je trouve que ça dépend de la mentalité que tu as. Hein.
Michel Louvain, j'imagine que c'était pas le plus ses gérants qui disaient « Non, toi, c'est plus payant de pas le dire. »
Mais les femmes l'aimaient tellement.
Ben, en fait, c'était l'homme... Il des bobettes et des brassières.
Mais c'était l'homme. En fait, ce qui est fascinant, ça en dit long sur certaines femmes. C'est comme si c'était l'homme idéal.
Pour certaines... poignées et fesses.
Ben, c'est sûr, mais pour certaines femmes romantiques, le gay, c'est quasiment l'homme idéal. Parce qu'il n'y a pas le côté macho un peu qui peut... Tu comprends? Donc, mais je perds mon idée, mais c'était une période qui était quand même très ouverte, très tolérante. C'est que Les jeunes générations font comme si l'histoire recommençait tout le temps. Les femmes, c'est la même chose pour les femmes.
Parce que les jeunes ont besoin de marquer l'histoire, peut-être. Ouais, avec l'histoire des drag queens et tout ça. Moi, je reviens pas que ça revienne encore dans le sujet en 2023-2024. Des gens qui sont anti-drag queen. Comment tu peux être anti-drag queen si voir? C'est que du bonheur que les drag queens peuvent vendre.
Ouais, c'est des beaux. Remarque, en même temps, je peux comprendre. Moi, c'est des souvenirs, des beaux souvenirs de la vie dans les bars à Montréal, les drag queens qui donnent leur spectacle, tout ça. Mais en même temps, ça nous amène au concept d'ouverture. C'est que, bon, c'est une chose de trouver les drag queens sympathiques, c'est des personnages. Puis, d'ailleurs, il y a eu un film là-dessus, le Solo, qui a été un film québécois qui était très, très, très bon. Mais jusqu'où ça doit aller? Est-ce que vraiment il faut qu'il y ait des écoles? Est-ce qu'il faut qu'il y ait... C'est qu'à un moment donné, moi, ce que je dis dans le livre, là, c'est que il y a une intéressante entre le conservatisme et le progressisme. Je trouve qu'il faut les deux. Il faut que tu sois progressiste. La comparaison que je fais, c'est avec une auto tout le temps. Une auto, c'est la pédale à gaz, c'est la pédale à essence. Toi, progressiste, il faut avancer. Mais il faut des freins quand tu conduis une auto. Hein? Qui voudrait conduire une auto? Et le conservatisme, je serais un conservatiste de bonne loi, est nécessaire. Donc, et ça, le Québec, on a un problème avec ça, avec le progressisme exacerbé où il n'y a pas de limite, comme si c'était des poules, pas de tête. J'ai fait une émission à Radio-Canada il y a 2-3 jours, là, qui était un petit peu rock'n'roll. Et il y avait un des gars qui était là, un des chroniqueurs qui était là, qui était correct. Là, qui était... Mais moi, j'ai expliqué ça. J'ai dit, à un moment donné, tu es ouvert, mais il faut qu'à un moment donné, tu aies une norme. Il y a du bon sens. Tu sais, à un moment donné, c'est pas... Puis il me dit, tout naïvement, il dit, tu veux dire que... c'est impossible d'être trop ouvert. C'est pas possible d'être trop ouvert. Mais j'ai dit, bien sûr. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas. Dans tout le dossier de la théorie des genres, c'est un exemple éclatant de ça. Tu sais, qui sont pour l'ouverture, pour la tolérance. À un moment donné, wow, là, il y a le bon sens aussi.
Oui, moi, je pense être dans le bon sens, quoi, que des fois, mon ex te dirait peut-être le contraire, là, la mère de mes enfants. Ouais. Des fois, j'exagère. Mais dans le dossier des drag queens, moi, mon dossier s'est fermé à partir du moment où j'ai dit, attends un peu, est-ce qu'on oblige ces enfants-là à côtoyer la drag queen qui raconte des histoires? Est-ce que la drag queen utilise des mots sexuels à n'en plus finir? Non, on les oblige pas. La permission des parents demandée, dossier clos, là.
Non, ça, c'est vrai.
Dossier clos.
Ils ont été manipulés. Ils ont été manipulés, excuse-moi, les drag queens, dans ce dossier-là. Mais cela dit, moi, dans le livre, je parle de ces choses-là parce que j'ai une liberté de parole exceptionnelle, tenant compte de mon âge puis de mon coming out très tôt comme gay. Je trouve que ça va trop loin à un moment donné. Parce que c'est comme s'il n'y a pas de limite. Et là, maintenant, il y a des gens qui s'offusquent. Pour prendre l'exemple qui m'a frappé, la première ministre, Danielle Smith, albertaine, ouais. De droite, là, il y a 2-3 semaines, elle a dit ben là, les opérations irréversibles, là, quand les gens ne sont pas majeurs, c'est problématique. Que les enfants changent le nom sans que les parents soient d'accord à ces problématiques, problématique, puis la compétition dans les exercices physiques contre les femmes des transgenres qui gardent toujours un avantage physique sur les femmes, c'est bon. Puis moi, j'ai fait mon petit sondage autour de moi, puis c'était tous des gens de gauche, tout le monde était d'accord, qui disaient, ben là, c'est le bon sens. Ouais. Mais le problème, c'est que dans ces dossiers-là, on dirait que... Puis ils étaient gênés d'être d'accord avec la méchante première ministre de droite, albertaine.
Ouais.
Moi, j'en ai parlé au panel de Patrice Sorois parce que je dis, il faut le dire. Là.
Oui.
Puis personne ne me contredit. Nathalie Normandeau m'a dit, oui, c'est vrai, ça a de l'allure. Mais ce qu'on voit, au Québec, on dirait que la culture dominante, c'est progressiste, en fait. C'est que comme un reniement du Québec d'avant 1960.
Est-ce qu'il y a une surenchère des outrés?
Ça veut dire quoi, ça?
Des gens qui sont outrés. Oh, à chaque fois que quelqu'un est de l'autre côté, exemple, quelqu'un de gauche extrême est très outré par les gens de la droite, l'autre bord. Quelqu'un de droite extrême est très outré par les gens de la gauche, l'autre bord. Ces gens-là s'éloignent, en fait, de la société, des gens ordinaires.
Mais le problème, c'est que c'est lié à la révolution numérique, c'est ça, t'as raison. C'est que les gens sont de plus en plus susceptibles, blessés, offusqués très, 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 très vite. Et je dirais même sur le plan international, les pays deviennent de même aussi. Puis c'est parce que la révolution numérique fait que chacun est enfermé dans son petit monde, puis tu perds l'habitude d'être confronté à des gens qui ne pensent pas comme toi. Donc, quand tu as le malheur de tomber sur quelqu'un qui dit vraiment une opinion très contraire, tu te choques, tu ne te sens pas respecté. Tu te sens... Et ça, c'est un vrai problème, je trouve.
Oui, puis il y a de l'hypocrisie des deux côtés. Là, je me souviens d'une dernière de Pierre Poilievre où il parlait de l'accessibilité au logement.
Ouais.
Et il avait pointé Valérie Plante à Montréal, il avait pointé Bruno Marchand, et là, tous les gens en politique au Québec étaient très outré de ce que Pierre Poilievre avait dit de Bruno Marchand et de Valérie Plante. Puis moi, ben, j'ai dit, mais c'est quoi qu'il a dit? Ben, il les a traités d'incompétents. OK, ben, c'est parce que moi, je suis les conseils municipaux, là, et autant le parti en place que les oppositions se traitent complètement, toujours, toujours d'incompétents. Autant au provincial, quand tu regardes à l'Assemblée nationale les débats, tu vas dire, t'as pas de vie pour regarder ça. Ouais, je regarde ça. Ces gens-là se traitent constamment d'incompétents. Puis c'est la même affaire sur la scène fédérale. C'est que là, il y avait un adversaire avec des idéaux qui étaient complètement différentes, qui disait, ben lui et elle, je les trouve incompétents, c'est pas vrai qu'on va dépenser l'argent des Canadiens. Les gens étaient fâchés de ça. Alors qu'ils se traitent tout le temps d'incompétents. Ils ont sorti sur les réseaux sociaux en disant, ça n'a pas de bon sens ce que Pierre Poilievre avait dit, mais pour chacun, j'aurais pu sortir 20 citations de leur part où ils traitaient des gens qui étaient à peu près, mettons, sur le même palier politique qu'eux, qui les traitaient d'incompétents.
C'est très juste ce que tu dis là. Puis c'est parce que on s'éloigne du côté combat de la politique. La politique, c'est pas de la morale. Ça incorpore des éléments moraux. C'est sûr que. Mais il n'y a rien de plus dangereux que de confondre la morale avec la politique. C'est l'encadrement de la loi de la jungle. C'est que dans les autres sociétés, on s'entretue. Je pense qu'on... Donc là, il y a des règles, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit toujours gentille, puis toujours polie, puis que tu dises que tu lances des accusations. Poilievre, ces temps-ci, c'est clair qu'il tape sur Trudeau, là, que c'est pour toute une série de motifs. Moi là-dessus, par rapport à ces choses, moi, je crois au combat. Puis je trouve que cette réaction-là, c'est tu te dis, mais là, qu'est-ce qu'ils veulent? Là? Ils veulent qu'on soit juste gentil, là, puis qu'on se flatte. Là.
Ouais.
Bon, alors que... Un combat civilisé. Moi, une chose que je... Moi, je suis un conservateur britannique dans ma tête, moi, en termes d'institution. C'est pas que j'ai défendu le mode de scrutin actuel, puis je suis très content de l'avoir défendu. On a gagné, là, puis je m'en réjouis tous les jours. Puis une des grandes... un des grands progrès, je trouve, de la pensée politique britannique, là, sur le plan politique, c'est le concept d'opposition officielle. Parce que dans la plupart des sociétés, historiquement, l'opposition, c'est les gens à abattre. On le voit d'ailleurs, pas juste historiquement, dans la plupart des pays, le regarde en Iran, partout. Là, de dire, là, non seulement l'opposition a le droit d'exister, mais on lui donne le titre d'officiel. Donc, je suis pas en possession totale de la vérité. J'admets qu'à un moment donné, peut-être que ces gens-là, ils vont prendre le pouvoir, notre blanc. Mais ça reste un combat. Puis à ce moment-là, c'est pas toujours élégant. Puis à un moment donné, ça peut être limite. Moi, ça me scandalise pas de ça. Mais je réalise que, je veux pas être trop méchant d'ailleurs d'analyse politique, mais beaucoup d'analystes politiques au Québec, ils font plus de l'analyse politique, ils font de l'analyse morale.
Oui. Et est-ce que le fait qu'il y a une très grande proximité au Québec entre les médias et les politiciens, ça peut causer problème à long terme? Tu sais, on parlait de pandémie tantôt, là. Si tu allais à l'encontre du gouvernement, il était aucunement question que tu aies accès à un ministre pour une entrevue. Mais si tu étais favorable au gouvernement en place, que ce soit parce que tu es journaliste ou chroniqueur, ben, il y avait peut-être des chances que tu aies une entrevue one-on-one avec Horacio Arruda ou encore avec le premier ministre du Québec.
En théorie, je t'aurais répondu oui. Mais je ne suis pas sûr de ça parce que ce temps-ci, je suis beaucoup la politique française, qui est un pays quand même beaucoup plus important que nous. Puis cette proximité-là en France, elle est incroyable. On dirait que tous les journalistes, là, ils couchent avec les politiciens, puis qu'ils fréquentent des politiciens. Puis tu as Léa Salamé, mettons, l'animatrice vedette, ouais, de Logos Émission, qui est avec, Glutzmann, qui se présente comme leader. Ouais. Puis c'est très, très courant. Ça, en France, alors que c'est une société beaucoup plus grosse. Donc, je ne suis pas sûr de ça.
Mais on ne se nuit pas avec les médias qui sont près des gouvernements. Moi, moi, j'ai des gens que j'ai connus avant qui deviennent des politiciens, qui étaient des amis, mais qui, à partir du moment où ils mettent leur cravate,
ben, c'est sûr,
c'est
ça change
fini, c'est terminé. Tu fais une bonne job, on va le dire, mais tu fais une job qui est très mauvaise à mes yeux. Je vais donner mon opinion aussi. À Montréal, on dirait que ça n'existe pas, ça.
Ben moi,
il y en a certains qui réussissent à le faire. Des gars comme toi qui sont indépendants de fortune personnelle, Christian.
Ben oui.
Tu l'as entendu, celle-là?
Ben là, c'est parce que c'est Jeff Fillon qui avait dit ça à Dominique Morin. À un moment donné, il parlait de moi. Puis écoute, c'était comme très gentil sur moi. Puis oui, il me dit, oh, c'est du four, lui. De toute façon, il a une fortune personnelle. Je vois ce qu'il a pris, ça.
Non, mais c'est vrai que toi, tu vas à contre-courant. Puis ton opinion est acceptée, même si tu es à contre-courant, parce que c'est appuyé sur des faits. C'est factuel.
Moi aussi, je le pense vraiment. Mais je ne peux pas répondre de façon rigoureuse à ça. Moi, c'est que prends Éric Duhaime. J'ai appelé Éric Duhaime il y a deux jours parce que je voulais envoyer copie de mon livre au chef de parti. Puis lui, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Hein, donc, je ne sais pas où l'envoyer.
Ouais.
Fait que j'ai parlé, c'est très longtemps que je n'avais pas parlé à Éric Duhaime. Puis il me dit, ah, ben je comprends qu'on ne se parle pas parce que là, je fais de la politique. Puis il comprend très bien les règles du jeu, ouais, là-dedans. Je ne sais pas ce que les autres font. Mais moi, ce qui m'inquiète plus pour le débat politique, puis j'en parle dans mon livre, ça, c'est l'espèce de mur de feu feu qui s'est bâti à un moment donné entre l'Empire québécois, puis le Journal de Montréal, puis LCN, puis la presse et Radio-Canada. Puis moi, j'ai payé le prix, hein, parce que moi j'étais chroniqueur au Journal de Montréal. Ben, pas chroniqueur, oui, mais après ça, j'avais une chronique avec Richard Martineau, que j'aimais beaucoup parce que, écoute, toutes les semaines, c'était pas payant, mais ce qui avait de le fun, c'est qu'on savait jamais de quoi on parlerait. Ça, c'est trippant.
Ouais. En fait, c'est un peu comme ce qu'on fait là présentement.
Oui, c'est vrai.
On parle de ton livre, mais on discute de trucs au travail.
Non, t'as raison. Mais j'aimais beaucoup ça. Puis là, à un moment donné, je me souviens, ça marchait. Hein. Il y avait du monde qui écoutait, puis ça durait une demi-heure. Puis là, à un moment donné, la saison recommençait, puis Richard dit « Ah, ça ne peut pas marcher. » J'ai dit « Pourquoi? » C'est parce que j'étais avec Patrice Savoie à Radio-Canada. Hein, que là, ils ont imposé la loi. Et là, ça semble être moins comme ça, heureusement, parce que je trouve qu'on est une trop petite société pour se priver des interactions. Et moi, j'en le dis dans le livre, quand il y a eu la pandémie, Richard, ça fait tellement longtemps que je le connais, puis on a adopté des positions très, très éloignées. Parce que moi, c'est ça qui m'a frappé. Québécois et Jean de Montréal, qui normalement avaient plus un public populaire, ont été plus durs à l'égard du peuple, je trouve, durant la pandémie, que moi au panel. Puis j'aurais aimé ça qu'on continue à placoter, à s'influencer les uns les autres.
Ouais. Hey, tu me donnes une porte de sortie, je dois faire une petite pause, si tu le veux bien. Que penses-tu du fait qu'il y a de moins en moins de gens qui adhèrent aux médias, moins de lecteurs, moins de téléspectateurs, moins d'auditeurs? Est-ce qu'on s'est éloigné, les médias, est-ce qu'on s'est éloigné du vrai monde?
C'est parce que c'est lié, je m'excuse, je me répète, mais c'est lié à la révolution numérique en bonne partie. Ça aussi, moi-même, j'écoute moins la télévision. C'est vrai que durant la pandémie, moi, je trouve que les médias québécois mainstream, si je peux me passer cette expression-là, ont perdu beaucoup de crédibilité auprès de beaucoup de monde. Parce qu'ils ont comme cautionné une attitude où toute critique était associée à des complotistes. Et ça marchait pas. Ça a été exagéré. Puis il y a beaucoup de gens qui en ont souffert de ça, puis qui croient moins ce que disent les journalistes officiels. Puis c'est vrai qu'il y a une pensée un peu journalistique officielle de gauche au Québec qui peut être tannante à la longue. Mais c'est plus large que ça, parce qu'avec la révolution numérique, ce que tu veux, là on a perdu Facebook un matin, là, pendant deux heures, là, moi, j'ai dit, donc, comment je vais faire pour vivre? non, mais tu ris, mais moi, je suis dans la promotion de mon livre, c'est cool. J'essayais de me reconnecter, là, puis ça marchait pas. Puis j'ai dit, qu'on est rendu dépendant.
Oui, on est vraiment rendu dépendant. Mais, tu sais, j'essaie de comprendre pourquoi les gens se sont totalement déconnectés. Je dis totalement, mais il reste encore des gens quand même qui sont là. Puis, je pense que la pandémie, du moins au Québec, a été un dur coup pour les médias parce qu'on avait l'impression que certains médias ne travaillaient pas pour la population.
C'est ça, ils étaient en collusion avec le gouvernement.
Ils ne travaillaient pas pour les lecteurs, ils ne travaillaient pas pour les téléspectateurs. Ils étaient juste un fil continu du gouvernement. Puis, les gens n'ont pas nécessairement apprécié. Puis, tu sais, moi, j'avais, dans mon ancienne vie radio, à Québec, on est un peu différent là, des autres médias au Québec, c'est-à-dire qu'on considère qu'on n'est pas obligé d'être ami avec les politiciens. Puis, on avait envoyé notre reporter, qui était, je pense, à sa deuxième semaine de travail avec nous, à la conférence de presse de François Legault. Et quand il s'est présenté, bonjour, Monsieur le Premier ministre, mon nom, c'est telle personne. Il a dit, vous, là, Monsieur Radio X, là, je aime pas beaucoup.
Je me souviens de ça.
Là, nous autres, on avait ri au départ parce que, tu sais, on connaissait notre moineau, mais en même temps, ça avait pas de bon sens de la part d'un Premier ministre de dire ça à un journaliste. Puis, au fur et à mesure que les conférences de presse se suivaient, à tous les jours à 13h, quand il y avait une question qui était posée, par notre journaliste, c'était repris dans les autres médias, mais les journalistes ne se permettaient pas de poser des questions qui pouvaient mettre dans l'embarras le gouvernement.
Ouais, ça, c'est très juste. Je me souviens très bien de ça. C'est dans ce sens-là que j'écris dans le livre que la méchante Radio X, là, elle a quelque part sauvé l'honneur de la démocratie québécoise. Parce qu'une démocratie libérale, il ne faut pas que tu aies un unanimisme total. Puis indépendamment de ce qui était dit, je ne cautionne pas tout ce qui était dit, là, la Radio X, je n'écoutais pas tout ça. À un moment donné, heureusement que c'était là. Il y avait un contre-discours encore, puis il y avait des gens qui posaient des questions. Puis ça, je crois qu'il y a encore des séquelles de ça qui existent dans notre société. Moi, il y a un an, quand Denise Bombardier est décédée, là, une personne qui était quand même fascinante à beaucoup d'égards, c'est un personnage, j'avais écrit sur ma page Facebook un hommage, mais très neutre, là, disant juste que c'est une femme qui disait ce qu'elle pensait, puis qu'il y en a de moins en moins du monde demain. Et j'ai été vraiment très frappé par à quel point il y a eu beaucoup de réactions très, très hargneuses de gens qui lui pardonnaient pas la pandémie.
Ouais.
Parce qu'à la fin, elle avait dérapé, c'est vrai, sur la pandémie. Au point même que moi, qui d'habitude, je ne fasse pas tellement de commentaires Facebook, à moins que ça soit vraiment raciste. Ou bon. Mais j'ai dû en effacer, parce que j'avais de mourir. Là. Tu comprends? Mais ça m'a frappé, je dis, hey, il y a encore, il y a des restes.
Les
de
gens
ça. Des gens qui ne se sentent pas, qui sont pas sentis écoutés, ne sont pas sentis respectés par les médias comme plus officiels. Puis comme je te dis, il y a Radio-Canada, puis la presse, qui sont plus, tu veux, establishment. Mais moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que Québécois et Jean de Montréal aussi ont embarqué là-dedans. Ouais. Donc, ça faisait beaucoup de monde, en définitive.
Puis, tu sais, juste pour finir avec Mme Bombardier, moi, quand j'étais jeune, c'était pas quelqu'un que j'appréciais. Je la sentais loin de moi. Elle était hautaine, elle était prétentieuse. J'écoutais pas nécessairement ce qu'elle disait. Je comprenais pas nécessairement non plus ce qu'elle disait. Mais en vieillissant, j'ai commencé à en savoir plus sur cette dame-là. Puis, à un moment donné, j'ai pogné une entrevue où l'animateur lui dit, mais tu sais, on vous reproche toujours votre ton un peu condescendant.
Ben oui, à la française.
À la française. On vous reproche aussi votre arrogance parfois. Vous avez beaucoup de prestance et tout ça. Puis elle avait dit, monsieur, si je n'étais pas comme ça, je ne serais pas devant vous. Et j'ai compris le phénomène de Denise Bombardier. C'est qu'effectivement, tu sais, quand elle a commencé dans les médias, je veux dire, c'était une femme qui devait prendre sa place. Puis elle devait se forger une personnalité qui était blindée.
Ah, puis elle avait un ego incroyable.
Donc, c'est ça. Donc, ce que j'ai pas aimé de Denise Bombardier, je l'ai apprécié une fois qu'elle l'a dit. Parce que c'est vrai que si elle n'avait pas un ego aussi démesuré, on n'aurait pas eu accès à cette dame-là. Là.
Oui, puis surtout que c'était pas une belle femme, on peut le dire avec. Mais moi, je la voyais une fois de temps en temps, elle était sexée. Parce qu'elle était tellement pleine de vie, là. Jusqu'à la fin, hein?
Ah ouais?
Jusqu'à la fin. D'ailleurs, elle est morte en écrivant encore. Donc, c'était un personnage. Mais ça, là-dessus, je dois dire que comme égo, là, c'était quelque chose.
Sûrement. Mais en même temps, si elle n'avait pas eu cet égo-là.
Non, mais c'était séduisant. C'est parce que.
Elle aurait pas viré un pédophile français, là. Alors, tout le monde adulait le pédophile français. Elle, sur le plateau, pataf.
C'était son moment de gloire. Mais ce que je trouve, puisque si on peut faire un peu de human interest,
ben oui.
C'est que ça a été son moment de gloire. Mais, tu sais, le succès. Puis les médias, ça comble pas une vie. Parce que sans révéler des secrets trop, c'est qu'elle n'était pas satisfaite, Denise. Puis jusqu'à la fin, elle recherchait les clics, elle recherchait l'approbation. Alors que moi, je trouvais qu'avec la grande carrière qu'elle avait faite, ouais. Tu comprends-tu, c'est qu'elle aurait pu se retirer un peu plus. Mais c'est une drogue, les médias. Toi, t'es jeune. Faut que... Mais la radio, c'est moins pire. La télévision, je trouve, c'est une drogue forte.
Ah ouais.
C'est comme de l'héroïne. Je veux dire, je trouve les gens qui sont vraiment... Bon, puis la TV, il n'y a aucune durée, hein. Je veux dire, un livre, là, c'est mon dernier livre testament. Peut-être que je vais être mort dans 5 ans, quelqu'un va le lire. Mais la télévision, je trouve que c'est très puissant quand t'es là. Mais t'es plus là, puis le monde s'en rend même pas compte. T'es remplacé tout de suite.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est une...
J'aime ça. Ce soir, on a le plaisir de jaser avec Christian Dufour, qui vient nous présenter son livre « Plus que jamais, la liberté », qui va être disponible dès demain dans les librairies.
Merci de me donner le luxe du temps comme ça.
Juriste, politicologue, chercheur, ex-professeur à l'École nationale d'administration publique, ex-fonctionnaire, auteur, chroniqueur. Je sais pas, y a-tu des défauts, ce gars-là? On en cherche depuis le début de l'émission.
Je suis un peu fêlé.
Oui, il est un peu fêlé, mais il est fait avec la radio de Québec. On est de même. On fait une courte pause, puis on vous revient tout de suite.
Marceau le soir.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec, qui vous offre un monde de possibilités, l'Europe.
On est de retour sur les ondes de Boulevard 102.1. Je vous rappelle que mon invité ce soir, je pense que c'est moi qui s'est gâté finalement. J'avais tellement hâte de le recevoir. Christian Dufour, Plus que jamais, la liberté, c'est son nouveau bébé qui va sortir demain dans les librairies. Christian Dufour, on l'a vu à la télé, il a écrit une multitude de livres. C'est un chroniqueur aussi qui a fait de bonnes années à la Radio de Québec. Il en fait aussi des chroniques dans le secteur de Montréal. Puis là, ben, il redescend dans sa petite ville où il a habité pendant quelques années. T'es étudié à l'Université de Laval, toi?
Oui, c'est moi, je viens de Saguenay, j'ai étudié à Laval. C'est ça, je suis resté 25 ans à Québec, une ville que j'adore. Puis là, je suis à Montréal.
OK. Mais pourquoi t'as pas étudié en politique? Pourquoi t'es étudié en droit?
C'est parce qu'à l'époque, c'était peut-être un côté straight que j'avais, même si j'étais gay.
T'avais un côté straight, un gay straight.
Un côté pouvoir. Dans le sens que la science politique, c'était comme des théories.
Ouais.
C'était peut-être plus séduisant. Mais moi, le droit, ce que j'aimais, c'est que t'apprenais comment la société fonctionnait, les règles. Hein? Puis c'est pas des règles qui sont toujours justes. C'est pas... Et je regrette pas du tout d'avoir fait mon droit. Parce que quand t'as fait ton droit, ça peut te servir à un tas de choses. Parce que ça t'apprend à être dans le réel. Jusqu'à un certain point. Bon, je veux pas. Tu peux très bien avoir étudiant en sciences politiques, peut-être très bon, là, tu comprends ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as moins tendance à flayer parce que tu as fait ton droit. Ouais. C'est très, c'est, moi, cette formation-là, moi, j'ai été très chanceux. Hein, j'ai fait mon
ça a été ton armée.
Oui, c'est vrai, ouais, c'est ça. Parce que, non, mais tu sais, le côté réel, parce que, tu sais, à un moment donné, le danger, en politique, le danger, c'est de décoller aussi le rêve. Ouais. Puis c'est vrai, tu t'en parlais tantôt. Puis c'est un peu normal. Toutes les générations veulent refaire l'univers. Mm-hmm. C'est évident, là, je veux dire, tu veux recommencer. Mais le danger, tu peux défaire l'univers.
Quelques secondes, on veut parler de politique internationale. Est-ce que tu suis un peu ce qui se passe aux États-Unis?
Moi, je dois dire qu'aux États-Unis...
Les Américains sont dans le trouble, des deux bords.
Oui, ils sont dans le trouble, puis moi, je tiens à ce qu'on ne soit pas des Américains. Tu comprends? Parce qu'on est tellement influencés par eux, on partage le même continent. Il y a un processus d'américanisation de ce qu'on est. Nos institutions politiques, Dieu soit loué, sont complètement différentes. Tu sais, on est d'une tradition britannique. Donc, pour répondre à votre question, je suis un peu, mais je ne suis pas comme certains Québécois qui connaissent plus les arcanes de la politique en Pennsylvanie que ce qui se passe au Québec. C'est rendu de même.
Hein? Parce que je travaille dans les médias, tu comprends que moi, je regarde ce qui se passe au municipal, au provincial, au fédéral, je regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis, puis de voir que là, on est en train d'essayer de propulser quelqu'un qui est en fin de vie, tu sais, pour être président des États-Unis, Joe Biden. Tu sais, les images qu'on voit de Joe Biden dans les médias sont encore un peu choisies. Mais moi, je vois des images passer sur Twitter où Joe Biden rentre dans des restaurants. Puis tu sais, la petite pente là, pour les personnes qui sont handicapées, il doit être accompagné pour ne pas tomber sur le côté. De voir qu'on propulse cet individu-là, je trouve ça particulier. Puis de l'autre côté, tu sais, il y a Donald Trump qui a de multiples accusations contre lui, qui va comme un train d'enfer directement accéder à son deuxième mandat comme président des États-Unis. Je me dis, il me semble qu'il y a des gars de 40 puis des filles de 40, 50, 60 qui pourraient faire la job puis très bien la faire.
Tu as raison. On voit qu'il y a un dysfonctionnement du système politique américain. Un qui s'en remet de bonne humeur, c'est Poutine. Parce qu'en comparaison, Poutine, en comparaison de Biden, dont le premier mandat était bon, moi je trouve qu'il a bien fait ça, mais la question, c'est là, il se représente, c'est ça le problème, puis il est en train de perdre ses capacités. Puis quand tu as Trump, quelque part, ça, c'est une espèce de cinglé, moi, je trouve. Donc, en comparaison, Poutine, là, il y a la fonctionnelle, entre toi et moi, surtout que ça va quand même assez bien. Et pour Biden, ce que je trouve particulièrement dommage, c'est la vice-présidence. C'est que là, ils sont encore pognés à garder Kamala Harris, qui ne tient pas la route. Qui est pas, si au moins, parce que ça peut arriver, il faut être réaliste, les enjeux sont énormes, que Biden, bon, s'il est réélu dans un an ou deux, là, qu'il soit obligé de laisser la place à la vice-présidence. Donc, c'est sûr que là, c'est entre la peste et le choléra. Tu as raison. Puis ça me fait penser à la fin de l'URSS, tu ne peux pas t'en souvenir, tu es trop jeune. À la fin de l'URSS, c'était tous des vieux, en fait. Hein, c'était une gérontocratie. Ouais. Puis l'URSS s'est effondré après. Ben, remarque, les États-Unis ne s'effondreront pas, mais sur le plan international, c'est quand même un peu inquiétant. Puis c'est aussi ce qui est frappant, c'est que là, Poutine est en train... Je pense pas qu'ils vont battre la Russie. Là. Ça n'a pas l'air parti pour ça. Là.
Non, c'est probablement qu'il y a des territoires qui vont être annexés. Là. Ils n'auront pas le choix. Là.
Alain Bauer, un analyste français qui est un peu arrogant, mais qui est bon, je trouve. Lui, on lui demandait à quoi comparer le conflit en Ukraine. Puis dis-moi, la meilleure comparaison, c'est la Corée. Il dit 50 ans après, il n'y a pas de traité de paix, puis c'est bloqué de même. Mm. Moi, c'est ça que je vois.
Mais envoyer constamment des milliards à un gars qui n'est pas nécessairement capable de tout mettre en place pour gagner sa guerre, j'imagine qu'à un moment donné, on va couper les valves. Hey, je veux t'amener Israël, Palestine. Est-ce que tu as suivi ça un peu? J'imagine que oui.
Ouais, je l'ai suivi. Je trouve ça... je t'en veux de m'amener là-dessus, mais je te comprends de le faire. Non, moi, j'ai trouvé sur ça pathétique, c'est fucké, en fait, pour employer une expression québécoise.
C'est que les gens ont l'impression qu'ils ont à peu près 10 ans d'histoire là-bas. Là. C'est des centaines et des centaines et des centaines, même des milliers d'années d'histoire.
C'est le plus vieux conflit de l'humanité. La haine des Juifs, c'est la plus vieille haine de l'humanité. Et l'élément nouveau, je trouve, il y a deux éléments nouveaux que je vois, c'est que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, Israël avait comme une espèce de capital moral, en fait, en disant à cause de l'Holocauste, puis tu sais, des nazis, puis tout ça. Puis là, je trouve qu'ils l'ont perdu beaucoup à cause du gouvernement de Netanyahou, ou qui a été noyauté par des extrémistes à cause du mode de scrutin proportionnel en partie, ce qui fait que c'est un peu honteux la façon dont Netanyahou mène ça. Puis en même temps, ben, il ne faut pas idéaliser les Palestiniens, puis Gaza, tout ça. Donc, à ce moment-là, tu dis, c'est un espèce de drame objectif. Prendre parti pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Et l'autre point qui m'inquiète, moi, c'est que c'est devenu... Puis ça, moi, je me souviens, j'avais fait un truc, à un moment donné, je ne sais pas à quelle émission, puis qu'il y avait des manifestants qui bloquaient le pont Jacques-Cartier, là, ici à Montréal, là, en sympathie pour les Palestiniens. Puis moi, ça m'avait choqué beaucoup. Je me disais, ce n'est pas notre conflit.
Non.
Tu sais, là, on peut avoir de la sympathie, mais je ne veux pas que ça devienne notre conflit. Mais aujourd'hui, avec la télévision, tout le temps. Les gens, on sont dans leur salon. Ça crée beaucoup d'anxiété alors que tu es impuissant. Puis aussi, il y a des communautés, c'est ça une grosse différence, c'est qu'avant, les pays occidentaux étaient pro-Israël. Point à la ligne, c'était le même. Là, il y a encore une espèce de fond pro-Israël, mais c'est beaucoup plus divisé.
Israël n'est pas parfaite. Là.
Pas du tout.
On sait, il y a un groupe criminalisé qui s'est attaqué à Israël. Israël a répondu par la bouche de ses canons. Et peut-être trop fort aux yeux de certains. Israël a des moyens armés qui sont draconiens par rapport à l'autre côté où c'est des gens qui tirent des roquettes, là.
Ouais, c'est ça. Puis moi, j'avais une sympathie pour Israël. En même temps, ils sont seuls, ils sont plus vulnérables qu'ils en ont l'air. J'ai un souvenir, moi. J'ai fait un voyage en Israël il y a 10-12 ans. Puis on était à Tel Aviv, qui est une ville, c'est une belle station balnéaire. Moi, j'avais pas l'impression que c'était comme ça. Puis c'était le premier défilé de fierté gay à Tel Aviv. Puis je me souviens, on était là, puis il y avait des jeunes qui défilaient, puis on disait, ils avaient l'air tous de bonne humeur. Puis il y a des gens qui étaient venus nous dire, c'est le plus grand défilé gay d'Europe. C'est le plus grand défilé gay d'Europe. Puis moi, je leur avais dit, vous êtes pas en Europe? Mais tu vois la mentalité. Tu comprends-tu? C'est qu'Israël a entouré. Puis j'avais écrit un article qui s'appelait Israël en muraille. D'ailleurs, il est dans mon livre, là, parce que c'était le seul. Ouais. Puis tu vois la mentalité d'assiégé. Puis une chose dans ce qui est arrivé, l'horreur de Gaza.
Eux, dans leur tête, ils correspondent à ce que les Européens sont. Là.
Exactement. Ils sentent comme Européens. Puis le point aussi, qui était quand même objectivement révélateur, quand il y a eu les attaques du 7 octobre là, par le Hamas, c'était épouvantable, cette affaire-là. Mais il reste que ce qui a été beaucoup attaqué, c'est une espèce, comment on dit ça en français, là, dehors, là, ça dansait, puis ça chantait, tout ça.
Un rave,
c'est ça. Puis c'était à 6 km de Gaza. Fait que tu vois l'espèce de disparité entre... Gaza, c'était comme une prison à ciel ouvert avant, puis là, aujourd'hui, je ne sais même pas ce que c'est. Puis il y avait comme une espèce d'inconscience en Israël. Mm. Là, je pense que beaucoup de Juifs ont atterri. Puis moi, je serais stressé. Parce que l'antisémitisme est sorti. En France, partout. Puis ça, c'est décourageant. Hein, parce que tu te dis, mon Dieu, ça revient encore.
Est-ce que tu vois une sortie de conflit à un moment donné?
Remarque, non, j'en vois pas actuellement, mais... Non, j'en vois pas actuellement. Des fois, il faut qu'ils aillent au bout de leur folie, là. Mais j'en vois pas, malheureusement. Donc, c'est pour ça que c'est un dossier que... Moi je n'ose pas trop l'analyser. Je suis juste un peu découragé. Mais en même temps, je veux pas prendre trop parti. Tu sais, Moi, ma position là-dessus, je veux pas que ça devienne notre problème. Tu comprends? On n'est pas responsable de ça. Ouais. C'est pas, alors que le système veut que ça soit le problème. Le village global, ça devient ça. C'est comme un bad trip global. Ça ne m'intéresse pas. Mais peut-être que je me bats contre des moulins avant, là, mais tu comprends ce que je veux dire?
Non, mais c'est correct. Christian Dufour, tu viens nous présenter ton livre « Plus que jamais la liberté ». On est maintenant rendu dans des petites questions personnelles. Tu te considères-tu comme accompli maintenant? Ou il reste encore plein de choses à accomplir? Parce que je répète, là, au début de l'émission, j'ai eu, en lisant ton livre, je me disais, mais là, il est en train de nous faire un legs. Là, je veux pas qu'il parte, moi, là. Je veux pas qu'il parte.
Ben, accompli, ça ferait un peu prétentieux, là, puis tant que tu es en vie...
Mais qu'est-ce qui te reste à faire? Tu as tout fait?
Moi, je vois pas la vie comme ça.
Il cherche un chef au Parti libéral. Là. Tu ne voudrais pas faire concurrence à Denis Coderre?
Je trouve chanceux. Non, moi, c'est surtout... Arrête donc. pauvre Denis Coderre. Non, moi, je me trouve... C'est drôle, ce livre-là, jusqu'à présent, je faisais mes petites affaires, puis on dirait que je n'avais pas de recul. Puis, là, ce livre-là, on dirait que ça me fait réaliser que c'est 35 ans que je suis là, que j'en ai fait des affaires.
Ouais.
Il y a une certaine fierté, il y a une certaine d'être encore là, puis de produire ça. Mais j'ai pas la prétention. Moi, comment je peux expliquer? La vie, c'est pas juste des carrières puis des réussites professionnelles. C'est plus compliqué que ça. Là. Il y a eu la vie personnelle, tout ça. Donc, je trouve que j'ai une vie très intéressante. Moi, je suis un gars très joyeux, très tourmenté. J'ai les deux. J'ai toujours eu ça. Je me suis pas ennuyé. Mais accompli serait prétentieux. Accompli. Y a-tu des gens qui sont vraiment accomplis? Puis quand t'es accompli, t'es juste à mourir.
Ouais. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand tu dis que t'es tourmenté, est-ce que t'as l'impression que ça a défini la personne que t'es aujourd'hui? C'est-à-dire l'intellectuel qui se pose tout le temps de multiples questions?
J'ai toujours été le même. Moi, en fait, parce que c'est lié d'ailleurs à des trucs qui sont arrivés quand j'étais très, très, très jeune, je suis joyeux. Je suis quelqu'un de fondamentalement joyeux. Je suis un tripeux, mais je tourmente. Puis je ne crois pas beaucoup à l'astrologie, mais je veux dire qu'en ce qui me concerne, ça marche. Je suis une balance. Une balance, c'est épris d'équilibre, de
comme romantisme. Comme
mon gars. Puis j'ai un ascendant scorpion.
Ah, ben ça, c'est comme
scorpion,
moi.
c'est le sexe. Fait que moi, mais c'est vraiment comme ça. Moi, je passais ma vie, si tu veux, à essayer de récupérer mon équilibre. Et... c'est pas facile pour moi, la vie. C'est-à-dire que je trouve pas... Tu sais, des fois, les gens vont dire « Ah, moi, j'adore la vie. » Je dirais pas ça, moi, j'adore la vie. Je trouve ça dur, la vie. Je trouve ça difficile.
Mais est-ce que c'est de l'anxiété? Parce que tu dis, tu parles de tourment, mais est-ce que c'est de l'anxiété? Parce qu'aujourd'hui, on appelle ça de l'anxiété, mais ça, ça a toujours existé, l'anxiété, depuis que le monde est monde.
Je suis conscient du côté tragique de la vie, en fait. C'est que toi, tu es trop jeune pour être là-dedans, puis tant mieux. Mais ça finit mal, hein, tout ça. Donc, veux pas par rapport à la mort, au vieillissement, tout ça. Je suis très, très lucide. Ça ne m'empêche pas. Moi, je suis un gars très positif.
Ouais.
Fondamentalement positif, et ça me fait rire, les gens. Mais je suis un gars pessimiste. C'est pas seulement la différence, c'est que je me dis ça finit mal. Hein? Donc à ce moment-là, puis c'est tragique, je suis pas le seul à m'être confronté à ça, le sens de la vie. Hein? Pourquoi? Ma mère disait ça. Elle disait c'est mal fait la vie, parce qu'elle dit quand on vieillit, on comprend plus comment ça marche. Puis souvent, on est plus heureux quand on est vieux. On est vraiment plus heureux que quand on est jeune. Sauf que c'est là que l'angoisse de la mort arrive. Ouais. Donc c'est mal fait dans ça. Et moi, l'autre point, j'en parle dans un de mes articles, moi, ce que je trouve pas normal, c'est que puisque dans la vie, tout meurt. Le pissenlit meurt, les animaux meurent, tout naît, vieillit et meurt. Pourquoi c'est si difficile? Ça devrait être plus facile puisque c'est dans la nature des choses. Parce que c'est une question un peu naïve, mais tu comprends ce que je veux dire?
Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Si on
de partir. Pourquoi c'est si difficile de partir? Parce que les gens qui ont... Tu parlais d'accompli tantôt. Il y a des gens qui ont quand même accompli leur vie, sont vieux. Là, quelqu'un qui meurt à 30, 40, 50 ans, tu peux dire ben, il est volé de sa vie.
Bah, ouais.
Mais quand tu as eu ta chance, puisque c'est un peu mon cas, dans le fond, tu as fait bien des affaires, tout ça, mais là, tu veux pas t'en aller, puis tu t'en veux plus, puis t'en veux plus, puis t'en veux plus. Ça, je trouve ça dommage. Parce que, coudonc, ça fait partie de la vie. Là.
Mais c'est bizarre. Moi, je suis totalement à l'extrême. Je suis content qu'on ait une date de péremption. J'ai pas hâte de mourir, mais je suis content qu'on ait une date de péremption parce qu'on se dit qu'on doit vivre les choses pendant qu'on est là, tu sais. Puis ça, il faut les réaliser à chaque jour. Il y a des gens qui nous écoutent, puis tu sais, c'est pas un jugement que je fais envers eux, mais c'est des zombies. Ils attendent juste que le temps passe, tu sais. Moi, comme je sais que j'ai une date de péremption, ben je veux faire des choses avec mes enfants. Je veux leur mettre dans la tête des souvenirs de leur père qu'ils n'oublieront jamais. Je veux me battre à chaque jour pour l'amour de ma conjointe, l'amour de mes amis, l'amour de mes auditeurs. Tu sais, je veux me battre à chaque jour pour eux.
Mais moi, je ne vais pas donner de conseils parce que ce serait très prétentieux.
Puis, mais j'en veux.
Mais moi, ce que je retiens de mon père, c'est que c'est l'exemple qu'il donne aussi. C'est que tu es un exemple pour tes enfants. Puis les bonnes vieilles valeurs qu'on transmet, là, c'est bien beau, là, mais c'est encore très actuel, les valeurs. Et plus on vieillit, plus quelque part, parce qu'à un moment donné, les enfants se détachent de leurs parents puis ne veulent plus rien savoir, puis c'est dans la nature des choses.
On appelle ça l'adolescence.
Oui, l'adolescence. Non, mais c'est normal. Plus je vieillis, puis je vois cette photo-là, j'ai le livre devant moi,
ouais.
Je ressemble à mon père de plus en plus. Puis des fois, je pense à des choses que je n'aimais pas de mon père, puis je suis comme
on
lui.
On est pareil.
Lui. Mais en même temps, donc avoir un père, avoir une mère, c'est très important.
Ouais. En fin de semaine, mon gars, il était en tournoi à Saint-Isidore. Puis là, il était avec ses amis, mais moi, ça fait. J'arrivais sur place, c'était sa mère qui avait fait un lift jusqu'à l'aréna. Fait que je m'en vais le voir pour lui donner un bec, mais il me dit. Tu sais, il savait que j'allais donner un bec, là. Il disait non, papa, je vais aller te voir tantôt.
Ah, ça
là, je dis ouais, mais je peux te avoir un bec. Il dit non, papa, je vais aller te voir tantôt. Fait que là, j'ai compris qu'à 10 ans.
Déjà, il
était... Le bec du père devant ses amis, ça se faisait plus.
Non, mais c'est normal. Mais ça, j'aurais pas ça. Moi, pourquoi les livres, je sais qu'on dit que c'est des bébés, ça peut faire un peu gnagnant. Mais moi, ça, c'est comme un peu mes enfants. Je crois qu'à un certain point, ça, c'est ce que tu lèches. Et moi, je me plains pas du tout. J'ai une belle vie.
J'espère
puis,
que non.
Je me suis pas ennuyé. Puis j'ai aucun regret, en fait.
Très petit voyage à faire?
Bah, sûr. Et la seule chose que. Comme on peut pas t'avoir dans la vie. Hein. C'est que là, dans la mesure où là, je continue à faire ma carrière un peu, puis alors, quand tu fais des émissions de radio, tu peux t'en aller, ou de télé, tu peux t'en aller, mais il faut que tu sois là un peu. Là, tu sais. Déjà, je pars des grands bouts, là, ouais. Au panel de Patrice Roy. Non, mais moi, je trouve les gens de mon âge qui ont de l'argent, ce qui est le fun, c'est de voyager.
Ouais.
Tu sais, ceux qui ont les bébés boomers, il y en a qui ont de l'argent, puis si tu es encore en santé, tu sais, t'as promis. Mais j'ai quand même pas mal. Je me plains pas du tout, moi, au contraire.
C'est où les plus beaux endroits, selon Christian Dufault?
Il y en a plusieurs. J'aime beaucoup l'Italie. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'Italie. Qu'est-ce que j'ai aimé? L'Indonésie.
C'est le climat, l'Italie?
Non, c'est quand on dit que les Italiens, c'est des Français de bonne humeur.
Ouais.
Je trouve qu'il y a une... Non, mais c'est vrai. Il y a une séduction en Italie. L'Indonésie, moi, j'avais fait le plus long voyage de ma vie que j'ai fait, c'était 3 mois en Indonésie. Écoute, mon gars, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y a plus personne sur la planète qui peut faire un voyage de même. Parce qu'on était dans Java, à Lombok, à Sumatra. Puis on n'avait pas de contact avec le Québec pendant 3 mois. Écoute, ça, là, c'est merveilleux, je m'en repasse, puis je suis encore jeune, puis c'est délicieux. Mais non, j'ai beaucoup de... Le pays que j'aurais aimé visiter, mais là, le timing n'est peut-être pas nécessairement moi, c'est la Russie, en fait. Mais le monde slave, autrement dit, j'aurais aimé ça, le monde slave.
Moi, j'ai un de mes amis qui était allé en Russie, je pense que c'était au mois de septembre dernier, puis ce qui l'a marqué, c'est que les Russes ne savent pas qu'ils sont en guerre. T'sais, les Russes que lui a côtoyés ne savent pas qu'ils sont en guerre avec pour la Crimée, dans ce secteur-là, avec l'Ukraine.
Oui, c'est vrai, parce que les Russes, moi, ce que j'ai découvert durant la guerre en Ukraine, comme bien du monde, les Russes ne sont pas comme nous autres. On pensait qu'ils étaient plus occidentalisés que ça, qu'ils le sont. Et c'est pas vrai que Poutine est tout seul puis que les Russes sont contre lui, c'est plus compliqué que ça. Le Maroc aussi, non, je ne sais pas parler. Moi, j'ai une deuxième patrie, c'est le Maroc, que j'aime beaucoup. J'ai un côté marocain, j'ai un côté arabe même au moment. Puis je les idéalise pas, moi, comme d'autres. Là, bon. Mais j'aime beaucoup ça, le Maroc, parce que c'est francophone, ça coûte pas cher, là, ça aide. En plus de ça, le climat est bien, ils sont gentils, puis c'est fascinant comme société. Ouais.
C'est un plaisir de te recevoir, Christian.
Ben moi, merci beaucoup, c'est une belle surprise, puis j'ai beaucoup aimé ça.
Je rappelle aux auditeurs qu'on recevait Christian Dufour qui venait nous présenter son livre « Plus jamais la liberté » qui va être disponible demain dans toutes les bonnes librairies. Tu parles de plein de sujets là-dedans qui sont hyper intéressants. Donc moi, je l'ai lu, je vais le garder d'ailleurs, je vais le relire pour être sûr et certain d'avoir tout intégré, mais moi, je le conseille à tout le monde, puis j'espère que c'est pas ton dernier.
Merci, non, je comprends le message. Non, je pense toujours, je vais écrire d'autres choses.
T'aimes-tu ça, Radio de Québec?
Oui, j'aime ça, Radio de Québec.
Il n'y a pas de format. Hein?
Non. Est-ce qu'on est encore en onde?
Oh, il reste à peu près 30 secondes.
Moi, j'ai commencé ma promotion par Québec.
Ouais.
Hein? 3 jours à Québec. Moi, je sais qu'ils vont trouver que je suis têteux, là. Mais moi, j'aime beaucoup Québec. C'est beaucoup de souvenirs. C'est toute ma... Donc, je me promenais tout à l'heure sur Grande Allée, puis c'est plein. Puis donc, oui, j'aime beaucoup Québec.
Puis, on n'a pas le... Tu sais, on n'a pas un format, là, tu sais, où on rentre en onde, puis c'est 8 minutes, là. Ouais.
À Montréal, la radio est beaucoup plus froide, plus frette.
C'est formaté.
C'est formaté.
C'est M. Arcan, ce qu'il faisait. Je veux dire, faut être un génie. Hein? Je veux dire, réussir à sortir toute l'information en 8 minutes puis repasser en pause, il faut être rapide.
Je le fais mercredi prochain, Arcan. J'ai hâte de voir comment il va réagir à ce livre-là.
Bon, d'après moi, ça va bien aller. Là.
Non, il y avait mon livre avant, il l'avait pas. Non, jusqu'à présent, je suis chanceux, en fait. je me plaindrai pas.
Merci beaucoup. Dufour, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Les podcasts s'en viennent dans les prochaines minutes. Puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, 11h, pour ce qui est de Marceau le midi. Merci. Bye-bye.
Marceau le soir. Amoureux des sucres. Boulevard 102.1, week-end.